Bonsoir à tous, chères auditrices et auditeurs. Vous êtes bien à l'écoute de votre Blabla Mix sur le 99.1 Radio HDR, le mix des cultures, également chez nos amis de Principe Actif au 102.5 à Évreux et au 95.9 dans le sud de l'Eure. Et il est bien sûr 17h et comme tous les jeudis, vendredi, lundi et mardi à 17h, on vous a concocté du super contenu et évidemment aussi le mercredi, bisous à Loïc que vous retrouvez pour Campus Mag. Du super contenu donc, puisque ce soir au menu nous avons nos chers stagiaires qui ont bossé très dur aujourd'hui, qui vous ont concocté plein de trucs, une chronique sport avec Plamédi, salut Plamédi.
Salut.
L'agenda avec Oriane, salut Oriane.
Salut.
Ouais. Et bien sûr, Gabriel également, je crois, vous a préparé de l'agenda.
Bonsoir.
Et également, si on a le temps et on aura un petit débat que Plamédi vous a organisé, parce qu'il a vu quelque chose qui l'a un peu perturbé, Plamédi, c'est ça?
Oui.
Eh ben, on va être amené à en reparler, bien sûr, ensuite vous retrouver, puisque nous sommes jeudi, la minute histoire du Doc Mansour. Doc Mansour qui va vous parler des mafias encore ce soir, c'est ça, Doc?
Voilà, on va essayer de clôturer ça avec une conclusion sur les principales familles qui existent encore aujourd'hui.
Je suis partagé entre la tristesse de la fin du passage mafia du Blabla Mix et en même temps la curiosité de savoir ce qui va venir ensuite. Et bien sûr, à 17h30, c'est l'heure de l'invité. Et ce soir, notre invité sera Anaïs, le neutre Bourris, qui est déjà parmi nous, mais qui n'a malheureusement pas accès au micro, parce que je lui ai pris son micro, mesdames et messieurs. Les invités sont maltraités chez nous. Et bien sûr, le Blabla Mix, ce n'est pas que des super chroniques, des super invités, c'est également de la super musique. Et c'est pour ça qu'on va dire bonjour, bien sûr, à Jérémy.
Bonjour, je suis la super musique.
Jérémy, la super musique, super DJ, super EA, qui vous a préparé comme première musique Testigo de Combo Chimbita.
Siempre di mi verdad, desde principio a fin, yo siempre di mi verdad. Te dije que yo no venía buscando, te dije que yo no venía buscando lo que no me iba a llegar, lo que no me iba a llegar. No me iba a llegar lo que no estaba llegando. Ahora frente a frente, cuando el sol saliendo está. Frente a frente.
C'était Testigo de Combo Chimbita sur le mix des cultures.
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
17h07 et vous êtes habitué à 17h07, maintenant c'est l'heure de la chronique sport de celui que certains ici appellent le Christophe Dugarry des Hauts-de-Rouen, Plamédie, hein, c'est bien toi le Christophe Dugarry des Hauts-de-Rouen.
Oui, c'est moi.
Alors qu'est-ce que tu nous as repéré un petit peu, chronique sport?
Tout d'abord je vais parler des Dragons de Rouen qui joueront les premières manches de la finale de la Ligue Magnus demain à 20h à la patinoire Île-la-Croix contre Grenoble.
Ah, ça fait plaisir.
Oui, oui.
Espérons qu'ils vont les gagner.
Oui, j'espère, mais ça va être assez compliqué à vrai dire parce que Grenoble, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe très concentrée et ils ont fait que de bonnes performances depuis le début de la compétition.
Ah, donc, c'est dommage pour Grenoble, j'ai l'impression que l'épopée s'arrête ici.
J'espère bien en tout cas.
Ah, on verra ça, on verra ça. Qu'est-ce que t'as d'autre sous le coude ?
Y aura un match international à la patinoire Île-la-Croix, toujours dans le domaine du hockey sur glace, ouais. Le vendredi 12 avril 2019, France-Russie.
D'accord. Donc tu m'as dit dans quel cadre ? Match international ?
Oui.
France-Russie,
c'est,
et toi,
oui, c'est la Coupe du Monde.
Petit fait. Pronostic pour cette Coupe du Monde ?
Victoire de la France, même victoire si la France. Russie, c'est quand même une grande nation dans le domaine du hockey sur glace.
Ouais, la France aussi, non ?
Oui, aussi.
Ah, bon, bah très bien. Et c'est tout pour toi, Plamédie, ou tu nous as repéré encore plein d'autres événements sportifs pour me faire bouger
non,
un petit peu ?
Non, ce sera tout pour moi.
Très bien, bah, dans le genre événement, on a aussi l'agenda. L'agenda d'Oriane, salut, re-salut Oriane.
Oh, bonjour.
Qu'est-ce que tu nous as repéré si on n'aime pas le sport ? Genre par exemple, bon, imaginons que moi je ne sois pas un grand sportif athlétique.
Bah, en fait, j'ai autre chose, mais j'ai aussi un petit truc de sport.
Ah.
Donc c'est un petit rappel, j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière, donc c'est encore du basket. Donc Rouen contre Paris au Kind Arena, vendredi, donc demain, à 20h30. Voilà.
J'ai l'impression que tu aimes bien le basket.
Ouais, je suis une grande fan.
Super.
Et je vous ai aussi concocté donc, pour ce samedi 30 mars à 15h30, donc, il y aura lieu la 5e édition du Ciné Friendly. Donc pour ça, il faut aller au bar Milk pour découvrir le programme qui aura lieu tout le long du Ciné Friendly. Et c'est un accès libre et gratuit. Donc je vais vous donner l'adresse pour éviter toutes les recherches.
C'est mieux, c'est mieux.
Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est au 1 rue du Père Adam ou Adam.
Père Adam, je crois.
Voilà, Adam. Ouais. Et voilà, donc c'est à 15h30 et c'est le samedi 30 mars.
Ok, c'est cool. Je vois Gabriel qui s'échauffe avant son passage. Et toi, Gabriel, qu'est-ce que tu nous as pris pour ce petit agenda traditionnel ?
Donc moi, je vais vous parler de ce soir et de demain soir. Ce soir à 22h, vous pourrez retrouver la résidence à l'Emporium Gallorium à Rouen, rue Beauvoisine. Et demain soir, vous aurez la soirée Arche 4 à 20h30, toujours au même endroit. Donc voilà.
T'as eu le temps d'écouter un petit peu ce que c'était ou c'est plutôt techno, je crois, non ?
Je crois, ouais, c'est ça. Hein, ouais. Ça va être plutôt techno, électro, ce genre
ça,
de...
C'est plus la spécialité de Jérémy que la mienne.
Ouais, pas trop tard le soir, moi, parce que je me couche tôt.
Ah, on est des couches tôt à Radio HDR, on est des gens sérieux. Alors, c'est bon, on a tout, les gars ?
Ouais, c'est bon.
Parce que moi, j'ai hâte d'entendre un petit peu ce que Plamédie avait envie de nous dire. Il a repéré quelque chose qui lui a pas plu, Plamédie, c'est ça ?
Oui, c'était... Hein, ouais, on en parlait tout à l'heure. Il y avait, comme vous le savez tous, il y avait eu lieu les foires gratuites à Rouen.
Ouais.
Et justement, par rapport à ça, il y avait une journée pour la femme. Et dans son domaine, c'était plus dans le domaine des produits biocosmétiques. Mmh. Or que nous, pour les hommes, c'était du travail, du coup. Et il y a des femmes qui ont trouvé ça assez sexiste.
Ouais, c'était création d'entreprise, je crois, la journée pour les hommes et la journée pour les femmes, c'était... Ouais. Du coup, oui, ça t'a posé problème, tu trouves ça sexiste?
Ouais, quand même un peu. Hein.
Oriane, toi qui représente un peu la femme chez les stagiaires de Radio HDR, qui est un peu notre touche de féminité en ce moment, et ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça te dérange
Ouais, ça me dérange aussi, ouais.
Ouais,
ouais.
Pourquoi? T'as l'impression que la femme est réduite à un rôle esthétique?
À être belle, ouais. Juste à être belle, et puis ouais. Voilà. Hein. Après, on pose plus, puis voilà. On est belle, et voilà. C'est comme une plante, en fait.
Et toi, Gabriel, je vois que tu es très affairé. Tu es en train de travailler en direct, mesdames et messieurs.
Ouais, je prends des notes au passage. C'est toujours intéressant, les débats comme ça.
Ouais.
Mais du coup, ouais, je pense que c'est assez réducteur, quand même, de prendre la femme et de dire ouais on va lier ça à la cosmétique machin et l'homme c'est lui qui va ramener le salaire, l'argent à la maison.
Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'ils disent?
En quelque sorte quand même.
Est-ce qu'il n'y a pas un côté, je me fais l'avocat du diable, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu commercial aussi? Je veux dire là en l'occurrence je crois que j'imagine qu'ils veulent vendre des produits. Est-ce que les cosmétiques, c'est pas un milieu où le client type est pas plus une femme? Est-ce que ce serait pas plutôt ça, plutôt qu'une volonté de rabaisser la femme à...
Peut-être en majorité, mais même dans la cosmétique, on trouve pas que des femmes, on trouve aussi des hommes, même je pense pas mal plus que ce qu'on pense. Et dans la création d'entreprises, il y a plein de femmes qui peuvent se lancer aussi généralement, et c'est pour ça, je pense vraiment que c'est dommage de faire ça de cette
manière. Ouais, limite, est-ce qu'on peut pas se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas plus d'hommes qui créent des entreprises? Alors, déjà, je suis même pas sûr de ça, mais il n'y a pas plus d'hommes qui créent des entreprises aussi parce qu'on donne cette impression que la femme peut pas créer d'entreprise avec ce genre de choses.
Alors là, aucune idée vraiment. Ah,
voilà, on se pose des
mais
questions.
C'est vrai que je sais pas, peut-être qu'une majorité, mais même là, genre, comme on n'a pas les statistiques, mais en vrai, je pense que il y a beaucoup de femmes qui créent des entreprises quand même.
Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, des journées réservées comme ça Non, vous savez pas, messieurs dames?
Non, je sais pas.
Ah, d'accord. Eh bien, mesdames et messieurs,
pour créer une entreprise, il vaut mieux être propre et sentir bon, en tout cas.
Ah oui, j'imagine, oui, après, j'imagine qu'on doit pouvoir citer, on ne le fera pas, des entreprises où les gens ne sont pas propres et ne sentent pas bon. Bon, bah écoutez, merci beaucoup mes chers stagiaires pour ce travail que vous nous avez fourni ce soir. On espère que mes chers auditeurs, ça vous intéresse ce type de débat et également les petits événements qu'on vous a repérés. Voilà, on souhaite le meilleur à nos amis les dragons et pour les encourager, je propose qu'on s'écoute un petit morceau de musique. Et Jérémy nous a préparé Belly de Bels Atlas. Bels Atlas.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Ça y est, mes chers HDRiens, HDRiennes et chers amis du sud de l'Eure et de Évreux. Il est 17h15, on est jeudi et vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est l'heure de la suite et malheureusement de la fin des chroniques de Doc Mansour sur la mafia.
Bonsoir.
Bonsoir Doc.
Donc on avait vu un peu tous les grands personnages, entre guillemets, de ceux qui avaient animé cette mafia. Mais en fait, derrière cette mafia, il y a quand même 5 grandes familles qui sont les plus connues. On va commencer par la plus puissante, qui, elle, a été à un temps donné gérée par Lucky Luciano. Donc c'est Genovese. Donc parrain, alors pas vraiment actuel, mais l'ancien parrain, c'est Danny Leo, non officiel et non confirmé, parce qu'on n'a jamais su qui était réellement ce monsieur. J'imagine. Alors ils ont toute une spécialité, hein, le racket, association de malfaiteurs, prêt à taux usurier. Alors, évasion fiscale, ils se sont fait une spécialité via des banques pour le blanchiment d'argent et aussi production de films.
Tout ce qui est un peu financier, quoi.
Voilà, trafic de drogue, extorsion de fonds. Juste après Lucky Luciano, ils se sont même adonnés à financer la pornographie et les paris, bien sûr, clandestins. Donc, les membres à peu près non officiels, hein, 250 membres. Et cette famille, qui fait partie de la Cosa Nostra, en réalité, parce qu'ils sont tous d'origine italienne, c'est la plus influente dans tout le milieu organisé aux États-Unis. Et en fait, on décompte à peu près, quand il y a eu les grandes arrestations, plus de 1000 associés collaborateurs.
Tout de même.
Donc, à l'époque, ils avaient, en 2005, ils avaient perdu Vincenzo The Chin Gigante, qui était le parrain, qui avait pris 12 ans de prison pour extorsion de fonds.
The Chin Gigante.
Ouais.
Le grand chin. Menton.
Voilà. Ah, bah après, ils ont tous des surnoms. Donc en fait, elle a été réellement fondée, quand la famille a vraiment été fondée et organisée, c'est en 1909, par Joe Masseria, qui après, c'est Lucky Luciano qui avait pris la relève. Et à partir de Lucky Luciano, il se passe quelque chose. Lui, il organise réellement la famille. C'est pour ça que c'est la famille la plus organisée. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui.
Donc la famille de Genovese. Hein.
Ouais. Okay. Et en fait, ce qu'il va organiser, c'est qu'il va organiser un conseil avec 5 familles. Donc je vais citer les 4 après.
Ouais, fameux. Hein.
Voilà. Et un conseil d'administration qui gère les affaires, c'est-à-dire on ne fait rien sans ce conseil. C'est-à-dire, on n'élimine pas quelqu'un comme ça gratuitement. On ne touche pas aux procureurs, on ne touche pas aux policiers, on ne touche pas aux avocats. C'est très structuré. Si quelqu'un fait un faux pas, bah, il lui arrivera quelques petites bricoles et beaucoup ont vraiment été plus ou moins malmenés. La deuxième famille qui est la plus puissante, c'est les Gambino. Donc les Gambino, racket, évasion fiscale, assassinat, stupéfiant surtout, principalement. Et surtout, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est les loteries clandestines et bars clandestins, pendant très longtemps.
Est-ce que la mafia a eu du mal à se lancer dans le milieu de la drogue, comme on peut le voir dans certains films type
ouais.
Le parrain?
Oui, parce qu'ils étaient très réticents à tout ça. Mmh. Alors, les Gambino, ils ont une facette plus ou moins officielle. C'est les gros propriétaires immobiliers. Avec les Genovese, en fait, ils avaient parasité les syndicats du BTP, des ports et du transport, avec Jimmy Hoffa et toute la clique. Donc, ils avaient tout parasité jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on commence à revoir tout ça réémerger depuis l'assassinat d'un des membres, dont on parlera vers la fin. En fait, ça existe toujours, l'argent transite toujours, mais d'une nouvelle façon.
Ouais, l'immobilier, c'est pratique pour blanchir de l'argent aussi.
Oui, mais en plus, comme c'est eux-mêmes qui construisent...
En plus. Ah oui, donc là, c'est coup de fil à tous les étages, si je peux me permettre.
Voilà, à tous les étages. Donc, en fait, elle reste quand même influente, malgré qu'elle soit... Elle est beaucoup plus discrète que d'autres familles, comme les Benano, qui sont un peu moins, par contre. Alors, eux, le dernier parrain connu, c'est Michael Monceso. Mais après, celui qui a succédé, on ne sait pas qui c'est.
Mais d'où est-ce que ces familles tirent leur nom? Parce que par exemple, Genovese...
D'un des fondateurs ou juste des noms par rapport à des régions italiennes ou un ancêtre mythique. Parce que c'est en réalité, ils fonctionnent comme des sociétés secrètes et parallèles.
On n'hérite pas de... Par exemple, je n'hérite pas de la famille de mon père, par exemple.
Non.
D'accord.
Non, non, non. À contrario de certaines familles comme la Cosa Nostra italienne, on hérite de la famille. Là, ces familles-là, elles n'ont qu'un lien de sang entre elles.
C'est du business, quoi.
C'est plus des relationnels.
D'accord.
On vous choisit, vous devenez le parrain, pour un laps de temps, bien sûr. Donc, les Benano ont en fait leur influence principale, justement, c'est en dehors du prêt à usure et du racket, c'est surtout principalement le fait qu'ils aient beaucoup de restaurants. Ils ont même racheté des chaînes de restaurants à laps de temps et des pizzerias. Le Pizza Gates, ça vient plus ou moins d'eux à un moment donné, quand ils ont prêté de l'argent à certains députés et sénateurs américains, ce qui était un peu plus... douteux pour d'autres. Maintenant, alors la famille la plus violente, la plus virulente, parce que parmi ses membres, on compte énormément d'assassins. Les Colombo.
Donc du coup, légendaire.
Voilà. Donc le parrain, l'un des derniers qui a été connu, c'est Alfonso Little Halliboy.
Ça fait pas nom de gangster ultra-violent, je trouve.
Non, pas du tout. Donc alors, principale activité, assassinat commandité. Tueur à gage, nettoyeur. Alors pour ceux qui veulent savoir nettoyeur, ils ont juste à regarder le film Léon. Et on comprend un peu mieux.
On comprend très bien.
Voilà. Donc, elle est dirigée depuis très longtemps par ce fameux Alfonso, qui est le fils, en fait, lui, de l'ancien parrain. Donc là, il y a quand même une... Alors, elle, en 2011, suite à des arrestations et des dénonciations, on comptait environ 50 membres, mais pas des moindres et pas forcément les plus sympathiques à croiser dans la rue. Il valait mieux pas avoir affaire à eux.
C'est un peu les bourreaux officiels du conseil, quoi.
Bah, c'est majoritairement eux. Hein.
D'accord.
Et même entre eux. S'il fallait éliminer quelqu'un de la famille, vous inquiétez pas qu'il le faisait de façon assez plus ou moins violente. Et en fait, c'est en 2011, quand il y a eu une grande vague d'arrestations, dans cette famille-là principalement, parce qu'ils faisaient un peu trop parler d'eux. Puis qu'en même temps, si vous avez déjà vu la série télé Un flic dans la mafia, sachez que c'est une histoire vraie. Il y a réellement eu des policiers infiltrés dans la mafia. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on a pu les arrêter et voir qu'ils avaient quand même des procédés assez brutaux, violents. L'un d'eux, d'ailleurs, Anthony, avant de devenir parrain, quand il explique dans une des biographies qui lui est consacrée, quand il a été intronisé, on l'a appelé un matin, on lui a dit « voilà, tu dois un service, tu vas voir un tel ». Il va voir un tel, on l'emmène dans un garage, il prend un véhicule volé, en fait. Il va chez quelqu'un, il le séquestre et il sort un couteau et il lui coupe les testicules.
D'accord, ouais. C'est particulier.
Oui, ouais, mais c'est une intronisation.
D'accord.
Et en plus, il était ancien capitaine de la famille avant. Et en fait, la dernière famille, qui est à mon avis la plus intéressante au niveau business, les Lucchese. Qui, elle, était vraiment le nom par rapport à son vrai créateur, qui est Tommy Lucchese, dont j'avais déjà parlé un peu plus longuement.
Parlé, ouais.
Donc, eux, retraitement des déchets toxiques, blanchiment d'argent. Et grâce à Meyer Lansky, ils avaient parasité le marché de la viande cachère. Ils avaient pendant un laps de temps toute la circulation de la viande de New York et de l'État de New York en entier.
C'est rassurant.
Le New Jersey et ailleurs.
C'est d'autant plus rassurant de se dire qu'en fait, ils s'occupent du traitement des déchets et de l'approvisionnement en viande.
Oui.
C'est peu rassurant, effectivement.
Ouais. Ils avaient même à un temps donné infiltré le grand syndicat des vendeurs de véhicules d'occasion. Donc, pouvoir faire passer des véhicules volés en les démontant, en les remontant. Grosse escroquerie financière et bancaire et au crédit. Évasion fiscale, parce qu'ils se sont fait un peu choper là-dessus d'ailleurs. Prêt à tout usurier comme tous les autres. Par contre, ils commanditent des assassinats, mais généralement, c'est les Colombo qui faisaient le travail. Et surtout, à un moment donné, alors ça, si vous avez un jour l'occasion de voir le film, c'est The Most Violent Hair, un film avec Iskar Ozak qui explique le business du carburant aux États-Unis, comment les transporteurs de carburant. Ils ont fait partie de... En fait, ils sont motionnés un peu dans le film. C'est qu'en fait, ils parasitaient les livraisons de carburant en volant les camions.
Ah, oui.
Okay. Pour le revendre un peu moins cher. Bon, ils se sont fait aussi... Une partie d'entre eux se sont fait arrêter aussi pour trafic de cigarettes entre le Mexique et les États-Unis.
C'est un classique. Hein.
Voilà. Et leur plus beau coup, ça a été dans les années 70, 80, jusqu'à 95, 96, le parasitage du syndicat des taxis de New York.
C'est-à-dire ?
Toutes les transactions de taxi leur devaient 10 à 20%.
Ah oui, d'accord, ok. Oui, ils retaxaient par-dessus, d'accord.
Voilà. Donc, c'était une famille plus que organisée, en sachant que tout le pilier principal est celui, entre guillemets, qui a écrit le manuel, parce que c'est pas vraiment écrit, on va dire, c'est plutôt coutumier,
ouais.
C'est Lucky Luciano qui a tout laissé. Et tout le monde suit ça plus ou moins assez consciencieusement. Et dans la famille Colombo, Joe et Colombo, qui, lui, dans les années 70, avait monté une ligue, la Ligue des droits civiques italo-américains, parce qu'il disait que le fisc et l'État américain faisaient de la discrimination envers les Italiens.
Ça manque pas de culot.
Non, mais c'était bien joué de sa part, parce que ça lui donnait une forme de protection. Et d'ailleurs, quand il sera interviewé, on lui dira « vous êtes un mafieux », il dit « non, vous êtes un parrain », non, mais la mafia, ça existe, non.
Je suis simplement victime du racisme des Américains.
Voilà. Alors qu'il est né aux États-Unis, hein, Joe Colombo. Ah. Contrairement à tous ceux, les fondateurs des familles, lui, non. Lui, il fait partie de la même génération que Al Capone. Il est réellement né aux États-Unis. Et en fait, quand il a fondé tout ça, il ramassait de l'argent, il avait des donateurs. Ça lui permettait aussi de blanchir de l'argent derrière. Et en 71, il organise un grand rassemblement des Italo-Américains pour se défendre. Et il va se faire, en fait, plus ou moins tirer dessus par un de ses collaborateurs, Cali, qui finira très mal, d'ailleurs. Calo.
On imagine, oui.
Donc, Calo, lui, sera conduit devant le conseil.
Il y a des procès ?
Ah oui, de toute façon, c'est pas vraiment des procès. C'est que si vous êtes convoqué et que vous venez pas, de toute façon, vous avez signé votre arrêt de mort.
Oui.
Donc, on lui demandait un peu de s'expliquer. Il savait très bien qu'il allait mal finir, mais il savait pas quand. Et c'est plusieurs semaines plus tard, en sortant d'un restaurant, où il mangeait son plat principal pour lui, qu'il adorait, son restaurant préféré. Il s'est fait descendre devant tout le monde pour régler ce compte. Et donc, justice a été faite.
Est-ce que c'est pas bizarre quand même? Je veux dire, moi, bon, j'imagine, je me mets à sa place. Le conseil des mafias de New York, le conseil des cinq familles de New York me dit « Écoute, Damien, on va t'abattre. » Est-ce que ce serait pas une bonne idée de ne pas retourner dans son restaurant préféré, peut-être de partir
Il peut pas s'échapper. Et en plus, alors, c'est là que c'est une psychologie tout à fait à part. Alors, c'est pour ça que j'avais lu une thèse là-dessus. Moi, j'avais plus survolé que lui parce que c'est complexe. Ce sont des hommes d'honneur. Il ne recule pas. Il sait qu'il a commis une erreur. Il sait qu'il a transgressé toutes les règles. Et il sait que tôt ou tard, il en paiera les conséquences.
Ah, ça doit être une drôle de situation quand même.
Bah, c'est une drôle de vie.
Ouais.
Par exemple, comment il s'appelle Michael Francese, qui lui, son père était mafieux. Lui-même a hérité de ça. Quand il va voir son père en prison pour lui dire qu'est-ce qui se passe, parce qu'il n'était pas vraiment au courant des activités de son père. Son père, il lui explique un peu sa vie. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Son père lui dit, est-ce que t'es prêt à être dans cette vie-là? Il dit oui. Est-ce que t'es prêt à tuer quelqu'un? Et il dit, si les circonstances se présentent, oui. Et il dit oui. Il dit, un jour, on t'appellera et tu feras tout ce qu'on te dit.
Ouais, passation de pouvoir un peu brutale même, presque.
Ah oui, mais il est passé par tous les caps, c'est-à-dire il est passé par simple collaborateur. Donc collaborateur, vous rapportez rien, vous gagnez pas d'argent.
C'est la méritocratie, du coup, la mafia. On n'hérite pas du titre,
non.
D'accord.
Non, après, tout doucement, jusqu'à être intronisé, devenir affranchi, mais avant, vous devez prouver qui vous êtes.
D'accord.
Et
j'imagine, ouais. Fait d'une façon, enfin, prouver qui on est, pas forcément en étant gentil et généreux.
Non. Non, par contre, on lui avait bien expliqué que quand lui, il a témoigné dans un documentaire où il explique comment il a été intronisé, on lui avait juste prévenu qu'à partir du jour où il est devenu collaborateur, c'est-à-dire même pas affranchi, juste collaborateur, si sa mère est malade et que la famille l'appelle, il doit laisser sa mère même mourir.
Ouais, c'est un sens du devoir.
Sa seule priorité, c'est la mafieuse et les activités. Et ils lui ont dit, maintenant, tu ne chômeras pas. 24 heures sur 24, on peut t'appeler, il faut que tu sois présent.
Oh, au moins ça rapporte, j'imagine.
Oui, au début, non.
Ah bon, ouais.
Mais après, ça rapporte, et après, bon, c'est une vie à part. Hein. Comme je vous ai dit, c'est une société parallèle, avec sa propre hiérarchie, ses propres règles. Et il ne faut pas trop jouer avec. Et en fait, comme je vous avais dit, il y a 15 jours, justement, un des chefs mafieux, Francesco Cali, 53 ans, patron des Gambino, justement, qui en fait, on croyait qu'on ne savait même pas que c'était lui, hein. On croyait que c'était d'autres gens. Lui s'est trouvé justement assassiné devant sa famille, chose qui ne se fait pas.
Ouais, pas devant la famille.
Non.
Pas dans le visage aussi.
Non plus. Donc là, le petit jeune qui a fait ça, il a été arrêté par la police, entre guillemets, heureusement pour lui.
Oui, de la chance pour lui. Ouais.
Parce que là, le conseil, apparemment, si même en prison, de toute façon, il finira mal. Hein.
Même limite, je pense que c'est même pire en prison. Hein. S'il y a bien un endroit où on trouve des mafieux, j'imagine que c'est en prison, surtout les tueurs de la mafia.
Voilà. Et alors, pour l'anecdote, si vous avez vu la série Un flic dans la mafia, sinon regardez-la. Donc, dedans, il y a un certain Donny Brasco.
Ah, oh, c'est connu, ça.
Voilà, donc ça a même été un film. Donny Brasco, de son vrai nom Joseph Dominique Pistone, qui est un Italien, né aux États-Unis, va réellement infiltrer la mafia.
D'accord.
Et c'est grâce à lui qu'il y aura énormément d'arrestations, parce que c'est la première fois qu'en fait le FBI... Le FBI avait changé de méthode à l'époque parce qu'ils voulaient tout faire vite et d'un seul coup ils se sont compris que non, on ne peut pas faire ça vite, il faut vraiment des gens qui s'infiltrent, qui connaissent le milieu et surtout l'argot et le langage de la rue. Pistone a grandi avec des mafieux. Sauf que lui, bon, il n'a pas choisi. Et en fait, dans les premiers des 6 mois, en fait, il change de nom, il passe un permis, on lui donne tout ce qu'il faut. Et il va rentrer dans la famille Bonanno. Et en fait, à partir de là, il va fréquenter le Colombo, il va fréquenter tout le monde et il va plus ou moins expliquer comment ça fonctionne réellement. Et c'est pour ça qu'en fait, maintenant, on connaît un peu mieux. Et curieusement, à partir de cette affaire-là qui a eu lieu dans les années 70 jusqu'à 79, jusqu'à 85, jusqu'à John Gotti assassine lui aussi un parrain, ils vont tous se faire très discrets. Mais beaucoup plus discrets qu'on le croit, parce que dans les derniers, par exemple en 2008, quand il y a eu le crash boursier, on a découvert qu'il y avait des fonds qui venaient de la mafia. Et c'est d'ailleurs eux qui se sont mieux sortis.
Ouais.
Alors que d'autres ont fait faillite.
Ouais, c'est une intelligence de la rue, peut-être.
Pas que de la rue. En fait, après, c'est peut-être triste de dire ça, mais ils sont pragmatiques.
Oui, c'est ça. Puis bon, j'imagine qu'ils sont moins retenus par les limites, quoi.
Ils n'ont pas de limites.
Ouais.
Le seul but, c'est de faire de l'argent le mieux possible, le plus vite possible, quitte à prendre tous les risques.
C'est une philosophie de vie, quoi.
Ah oui, bah, c'est un choix de vie,
ouais,
et d'existence. Après, le choix de société, c'est autre chose.
Ouais.
Donc voilà, les cinq familles aujourd'hui qui existent encore, il faut savoir qu'en Sicile, il y en a une centaine.
Ouais, bah, là, familles. Pour le coup, il nous faudrait plus d'une émission pour tout décrire.
Ouais, après, en Italie, c'est beaucoup plus particulier, mais faut, comme je vous avais expliqué, ce qu'on appelle mafia, c'est vraiment la mafia italo-américaine, la mafia italienne, la mafia russe, la mafia albanaise et la mafia turque. Toutes les autres ne sont que des organisations criminelles.
D'accord.
Ce qui est légèrement différent, parce que là, ils sont vraiment hiérarchisés.
Mais si vous voulez entendre ça, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller regarder les podcasts du Blabla Mix le jeudi, bien sûr. Bon, bah Doc Mansour, c'est tout pour la mafia.
Voilà.
On se dit arrivederci.
Voilà.
On se dit arrivederci. On va se faire un petit morceau musical pour se détendre avant de passer à notre invité. Et attention, c'est compliqué. On va s'écouter Boogeyman Sam avec Boogeyman Sam de King Gizzard and the Lizard Wizard. We'll be right back. Boogeyman Sam, qui, oula, Boogeyman Sam, pardon, de King Gizzard and the Lizard Wizard.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Eh oui, c'est pas toujours facile de dire des noms de groupes, mais c'est bien, bien agréable de les écouter. Et bon, puisqu'on parle un petit peu de crime, parlons également un peu de justicier. Et c'est pour ça que nous avons reçu aujourd'hui, que nous recevons actuellement, Anaïs Le Neutre Bourris. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes donc chef de projet innovation numérique, c'est bien ça, dans le réseau Rouen Nouvelle Bibliothèque.
C'est ça.
Voilà, et vous venez nous parler donc de l'événement Batman, pour les 80 ans de Batman, à la bibliothèque du Châtelet. C'est bien ça ? Vous voulez bien nous présenter cet événement ?
Oui, donc c'est samedi, donc dans deux jours, de 10h à midi et demi. Non, pardon, de 10h à midi et de 13h30 à 17h à la bibliothèque du Châtelet. Et donc en fait, on a voulu, cette année c'est les 80 ans de la création de Batman, et donc on a voulu fêter son anniversaire dignement. Tout comme le font les éditeurs à la fois américains, donc DC Comics, qui sont assez célèbres, et l'éditeur français également de DC Comics, à savoir Urban Comics en France.
D'accord. Mais comment ça vous est venu, cette idée, au-delà de l'anniversaire de Batman ? Vous êtes vous-même une fan peut-être de comics, ou il y a des fans de comics ?
Voilà. En fait, moi, je suis une très grande fan de comics et de Batman plus spécifiquement. Et donc, j'ai proposé ça à la bibliothèque. Et bien sûr, comme la bibliothèque de Châtelet est composée en majorité de geeks et aussi de fans de Batman, ils ont répondu tout de suite à l'appel. Et voilà.
Bon, alors concrètement, comment ça va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, il y aura plein d'activités, il y aura plein d'intervenants. Déjà, il y a une association spécialisée sur Batman. Ouais, ça existe. Donc, c'est un blog qui s'appelle Batman Legend, qui sera là, qui présentera également une conférence sur la place des femmes dans l'univers de Batman à 14h30, puisqu'on est aussi dans un mois sur le droit des femmes dans la ville de Rouen. Il y aura également des ateliers pour les plus jeunes, donc des ateliers de coloriage, des ateliers créatifs où les jeunes pourront créer leur masque de Batman. Il y aura aussi un atelier de perlama, c'est-à-dire on pourra créer des figurines un peu sous forme de pixel art en perlama, pour ceux qui connaissent.
Sinon, vous pouvez aller voir sur Google Images, c'est très beau.
Voilà, c'est magnifique. Et donc, ils pourront créer leur petit Batman, leur Joker ou d'autres personnages et d'autres logos. Vous pourrez également explorer la Batcave en réalité virtuelle. Et ça, franchement, c'est génial. Je l'ai déjà testé plein de fois. On se croirait dans la peau de Batman, dans le costume de Batman, parce qu'on peut mettre le costume en réalité virtuelle, bien sûr.
Et ben là, je vois trépigner les gens autour de moi. Tous se posent la question. On peut mettre le costume de Batman et aller visiter donc la Batcave en VR, en réalité virtuelle, pardon. Ouais. Mais quel Batcave et quel Batman ? Parce qu'en 80 ans, il a quand même pas mal évolué, l'homme chauve-souris, non ?
Et oui, il y a eu énormément d'interprétations, ne serait-ce que dans les comics, qui sont moins connus que les films et les séries. Voilà, il faut savoir que, quand même, que dans les comics, il a beaucoup évolué. Il y a l'âge d'or des années 40-50. Ensuite, l'âge d'argent des années 50 à 60. Et ensuite l'âge de bronze, des années 70 à 80-90, avec une renaissance, vraiment une grosse renaissance avec Frank Miller, le célèbre Frank Miller, le célèbre scénariste et dessinateur de comics, qui a donné un peu, alors avec des bases avant avec d'autres scénaristes, mais vraiment Frank Miller a permis de redonner ses lettres de noblesse aux héros sombres, torturés qu'on connaît aujourd'hui, et c'est aujourd'hui le Batman qu'on connaît toujours, donc ça fait quasiment 20-30 ans qu'on connaît ce Batman de mieux en mieux, grâce au cinéma, grâce aux films de Tim Burton qui ont aussi fait connaître ce héros de plus en plus au grand public, et ensuite aux films de Nolan.
Parce que oui, il y a 80 ans, il était déjà pas mal sombre et torturé, et après ça s'est un peu calmé.
Voilà, parce qu'il y a eu le Comics Code Authority qui est en 1954, qui a posé sa censure, en fait, interdiction de présenter de la violence, de la drogue et du sexe dans les comics. Donc là, tout ce qui composait Batman, justement.
De la violence, de la drogue et du sexe dans Batman ?
Et oui, puisque Catwoman existait déjà. Et Catwoman a d'ailleurs disparu avec ce Comic-Con Authority. Elle est revenue dans la série des années 60. La célèbre série d'Adam West, qui est aussi dans cet aspect justement un peu ridicule de Batman, mais qui a restauré quand même un petit peu de ce côté sensuel de Catwoman. Et ensuite, c'est revenu avec le succès de la série de 66 à 68. Alors que Batman était vraiment en baisse des ventes, ça n'intéressait plus le public à cause justement de cette censure. Il est revenu à la mode pour ensuite prendre de l'importance dans les années 70 avec des scénaristes et des dessinateurs comme Denis O'Neill et Neil Adams qui ont contribué à redorer le blason avant Frank Miller.
Est-ce que vous pensez, là c'est question d'amateur absolu en comics, clin d'œil à ceux qui écoutent régulièrement le Blabla Mix, est-ce que vous pensez que cette espèce d'engouement autour de Batman va perdurer ou est-ce que vous pensez qu'il va faire place à d'autres super-héros
Alors il peut faire place à d'autres super-héros, hein, on l'a vu, il y a eu Marvel qui est né dans les années, entre les années 40-60, enfin en changeant de nom, l'appellation Marvel date vraiment des années 60. Donc voilà, il y a Spider-Man qui est un peu... le super-héros préféré, surtout des jeunes. En fait, chaque génération a son super-héros préféré. Les jeunes, c'est plus Spider-Man. Les générations précédentes aussi, c'est plus Superman. Qui est aussi connu que Batman. Et voilà, Batman, quand même, domine les ventes de comics. Dès qu'il y a un gros film Batman, c'est tout de suite un succès phénoménal. Mais bien sûr, il laisse la place à d'autres super-héros, comme les héros, on sait aussi bien, enfin, vous savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, au cinéma, c'est Marvel qui domine, nettement. Même si DC tente de survivre.
C'est ce que je me disais, Spider-Man c'est plutôt Marvel, non, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais. Oui, Spider-Man c'est Marvel, les Avengers,
ouais.
Donc ça tout de suite, voilà.
Alors Spider-Man plaît plus aux jeunes que Batman alors?
Eh bien oui, ouais, statistiquement, quand on interroge, j'ai eu une étude statistique que j'ai lue il y a pas très longtemps sur justement les super-héros préférés, selon justement les générations, selon... Et en fait, c'est pas étonnant, hein, quand on voit tous les sacs, on va en grande surface, les trucs pour les jeunes, c'est que du Spider-Man. Moi, je trouve pas beaucoup de Batman, d'ailleurs.
Pourquoi donc, à votre avis, est-ce que les films de Sam Raimi commencent à remonter, là ?
Oui, mais en fait, Spider-Man, il est jeune, il est rigolo, et puis on rêve tous de faire de la... De se balancer entre les toits avec une toile d'araignée, c'est génial, quoi. C'est plus pratique que de se fabriquer un batarang.
Justement, ça, on va en parler de cette histoire de fabrication de batarang qui m'a soulevé moult questions. Mais en attendant, on va interrompre malheureusement Jérémy qui est actuellement en train de se balancer à l'aide de sa toile de musique en musique. Il va nous mettre une super musique sur laquelle il est tombé, c'est Freak Baby de Razorbumps.
Yeah.
avec Baby de Razor Bumps. Et nous sommes toujours dans le Blabla Mix. Il est 17h48, chers auditeurs et auditrices. Je suis une honte pour la langue française. Nous sommes toujours en plus devant notre invité Anaïs Leneutre Bouris, qui est un petit peu notre madame littérature aujourd'hui et qui vient nous parler de l'événement Batman à la bibliothèque du Châtelet. On parlait avant de se séparer, d'être séparés par notre amour commun de la musique, de la création de Batarang, un atelier création de Batarang qui sera donc disponible au cours de cet événement si je ne m'abuse. Il m'a semblé, en voyant ça, que ce sera fait avec l'aide du Chamalab.
Voilà.
Kézako.
Le Chamalab, c'est le nouvel espace un peu numérique innovant de la bibliothèque du Châtelet, que vous pouvez visiter d'ailleurs à la demande, en demandant au bibliothécaire, où nous possédons du matériel numérique un peu spécifique. Alors, bon, des ordinateurs, mais avec dessus installés des logiciels de modélisation 3D qui peuvent être alliés à l'imprimante 3D. Donc, on a une imprimante 3D qui peut imprimer des figures, des figurines modélisées auparavant ou trouvées sur le web, puisqu'il y a des sites qui permettent de trouver. Et donc là, durant, on a aussi dans cet espace une machine Scan and Cut, qui est une imprimante spécifique où vous pouvez scanner des motifs ou les télécharger et ensuite les découper sur du tissu, sur de n'importe quelle matière, enfin acceptée par la Scan and Cut, mais qui accepte quand même beaucoup de matière. Il y a aussi une machine à coudre et des outils classiques que vous avez tous à la maison, mais voilà.
Ah oui, donc on va pouvoir faire bien plus qu'un batarang en fait.
Alors, le jour de Batman s'est concentré sur, effectivement, sur la fabrication de petits batarangs en 3D. Et à la machine Scan and Cut également, vous pourrez imprimer des batarangs de diverses formes avec votre nom, par exemple, dessus. Mais sinon, effectivement, alors ce Chamalab, il est pour l'instant ouvert aux associations. Mais on va de plus en plus organise des ateliers aussi ouverts au public, à tout public. Il faut surveiller la programmation sur notre site internet ou sur le Texto, donc qui est le magazine culturel des bibliothèques. Et donc voilà, on essaye de faire découvrir au fur et à mesure ce Chamalab. Alors je ne l'ai pas présenté, mais Chamalab, ça veut dire Châtelet Maker Lab, parce que c'est un Maker Lab. Voilà.
Ah, d'accord, ok, voilà qui répond à moult questions que je me posais en préparant cette émission.
C'est un petit nom très mignon qui représente bien l'espace.
On rappelle bien sûr, puisque nous sommes en train d'employer des contractions, bien sûr, que le batarang, c'est l'espèce de boomerang en forme de chauve-souris qu'utilise Batman, c'est bien ça?
C'est ça.
Oui, il a plein de...
Son arme principale.
Ouais, c'est son arme principale.
Voilà,
ouais.
Parce qu'il n'utilise pas d'armes à feu.
C'est vrai, il utilise des armes à feu au début, je crois, dans ses premiers comics.
Oui, dans les premiers comics, jusqu'à un petit peu de censure.
Et pas dans ceux de Miller, du coup.
Ceux de Miller, alors non, dans les comics de Miller, il n'utilise pas d'armes à feu, ou alors des armes à feu soft, qui ne tuent pas.
On va peut-être en reparler dans Ça vous concerne. Pardon pour cette blague, chers auditeurs. Bon, alors du coup, j'imagine que des comics de Batman, vous en avez à la bibliothèque du Châtelet.
Oui, on va les mettre en avant lors de la journée.
Est-ce que le comics a toujours la cote?
Il faut se l'avouer, il a beaucoup moins la cote aujourd'hui. D'ailleurs, Urban, enfin, en France, Urban Comics, mais... DC Comics et Marvel sont pas au top de leur forme niveau financier à cause des... Enfin, la branche comics de ces éditeurs, franchement, ça ne rapporte pas grand-chose, quoi. C'est surtout la branche cinéma et séries télé. Mais les comics ne rapportent plus rien. C'est une niche maintenant. C'est vraiment des fans qui sont vraiment, voilà, vraiment axés là-dessus, qui lisent énormément de comics. Mais c'est vraiment un public très, très, très réduit, hein, très faible pourcentage. Et d'ailleurs, le format kiosque, qui est le comics, enfin, le format original de comics, surtout aux États-Unis, a très peu la cote en France, même parmi les amateurs de comics d'ailleurs, parce que moi je suis un peu dans cet univers et quand je discute avec d'autres personnes, il y a aussi un faible pourcentage d'amateurs de comics qui achètent au format kiosque. Et ce format est en pleine perdition en France aujourd'hui, avec des difficultés financières, des difficultés pour les éditeurs à assumer le format. C'est vraiment le cinéma qui domine le monde des super-héros. Et donc voilà, malheureusement, les comics qui sont beaucoup plus passionnants, qui sont un univers beaucoup plus élargi, beaucoup plus intéressant et complexe, ont moins de succès.
Ouais, le format kiosque, c'est cette espèce de petit format magazine qu'on peut voir parfois dans les séries télé, tout ça, c'est ça ?
Qui apparaît toutes les semaines, ouais. Voilà. Bon, en France, on suit plusieurs chapitres, un ou deux chapitres par semaine, ouais. ou par mois, selon le
côté un peu sériel, quoi. Ouais.
Voilà.
Ouais. Ouais, nous, en France, on préfère un peu les espèces de grandes BD pour voilà. faire des comics.
En ouais. fait, les comics qu'on lit en France, c'est les formats kiosques, mais réunis. Enfin, c'est les éditions de ce qui est publié en kiosque. Aux États-Unis, mais aussi en France, mais qui sont édités en beaux livres. Que fait très bien ? Alors là, on se concentre sur Batman, donc je parle d'Urban Comics. Urban Comics est un très bon éditeur, pour ça très apprécié des fans de comics, puisqu'ils font des beaux livres. C'est pour ça d'ailleurs que les gens achètent très peu les kiosques, puisque l'éditeur Urban fait vraiment des éditions magnifiques. Mais en fait, il édite ce qui est publié en kiosque. Mais sauf que le public français est habitué à lire des livres et des BD. Pas des formats kiosques. Voilà, c'est une habitude. En fait, les Américains sont plus habitués à lire des kiosques, mais les Français sont plus habitués à avoir des beaux livres chez soi, à être collectionneurs, à une belle bibliothèque.
Ouais, c'est un peu la même chose avec les mangas, non, si je ne m'abuse ?
Oui, alors là, je connais un peu moins. Mmh. Mais effectivement, en France, on lit aussi les mangas, enfin, des mangas reliés, enfin, édités, ouais. quoi.
Oh, une petite spécificité culturelle française, peut-être que la France est quand même un bon pays de la BD, non, si je me trompe.
Bah oui, oui. Et on est habitué plus à BD, au format BD franco-belge, qui est édité, voilà, il y a des livres, enfin, c'est relié, c'est...
Bon là, on ne vous cache pas, chers auditeurs, qu'on avait un débat en off, débat brûlant, Marvel, DC. On va être obligé de poser la question à notre invité. Qu'est-ce qui marche le mieux, question emprunt, tout ça. Est-ce que c'est plutôt Marvel ou est-ce que c'est plutôt DC?
Emprunt en bibliothèque?
Oui, ou ouais, au niveau ouais. littéraire, quoi.
Alors ça, je ne sais pas. au niveau... Non, je pense qu'il y a des équivalences parce que DC domine largement, enfin, grâce à Batman en fait. Batman, c'est la manne financière, carrément, de DC Comics. Ensuite, il y a les autres petits héros à côté. Et du côté de Marvel, ils ont plus de diversité. Donc, ils arrivent aussi à vendre. Après, dans les bibliothèques, je ne sais pas ce qui est le plus emprunté entre du DC et du Marvel.
Vous avez noté quand même un regain d'intérêt, peut-être chez les jeunes, avec l'épopée du Marvel Cinematic Universe qui a lancé ensuite le DC Cinematic Universe.
Oui, ça, enfin, en tout cas, ça fait un regain d'intérêt des super-héros, même un peu trop, je pense. Enfin, moi, qui suis pourtant une fan, voilà, je plains les gens qui n'aiment pas parce qu'on n'entend parler que de ça. Donc c'est pas évident. Ils dominent vraiment le cinéma. Enfin, c'est un peu trop. Surtout le rythme Marvel, en fait, ils publient beaucoup. Enfin, ils sortent beaucoup trop de films. Ça risque de créer une overdose et les gens ensuite risquent de ne plus s'y intéresser. Par contre, c'est vrai que ça fait connaître les comics. Voilà, moi, c'est que par le cinéma que j'ai connu les comics. Donc voilà, peut-être que plus tard, à force de voir les films au cinéma, les gens vont peut-être se mettre à lire des comics. Mais enfin, à vrai dire, pour l'instant, la population française, en tout cas, et même américaine, s'arrête aux films. Et malheureusement, ne se mettent pas beaucoup aux comics.
Pourtant, on pouvait peut-être avoir l'espoir que ça permette de faire découvrir des héros moins connus. Par exemple, moi, j'étais pas un grand expert en comics, j'ai découvert Iron Man. Iron Man, comme on dit dans la langue de Donald Trump. Je sais pas, Thor, tout ça, on connaissait pas. Vous pensez pas qu'il y a peut-être un espoir, peut-être, je sais pas, que ces films réussissent à faire, je sais pas, lancer un engouement peut-être pour des héros moins connus, moins grosses figures que Superman, Batman, Spider-Man, tout ça.
Si, par contre, ouais. Bah, on voit Captain Marvel. Là, il y a le film de Shazam qui sort. Shazam qui était pas vraiment connu avant. Il y a les Birds of Prey qui vont sortir avec Harley Quinn, Huntress et Black Canary, la copine de Green Arrow. Alors voilà, là je vous cite des noms, personne ne connaît, quoi, sauf un petit peu Black Canary grâce à la série Arrow. Mais voilà, c'est des héros et des héroïnes. Des héros et des héroïnes très peu connues et qui vont devenir célèbres grâce aux films présents et futurs.
Eh bien, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous parler de Black Canary, mais je vois que mon collègue Gabriel a une question pour vous.
Oui, justement, je me demandais, c'est peut-être justement grâce à l'essor des films, enfin, à cause de l'essor des films et le fait qu'il y en ait beaucoup, du coup, et que ce soit peut-être plus accessible que d'acheter des comics par numéro et tout, et que ça permette aussi de suivre l'histoire des héros quand même. Je me perds dans mes questions. Mais du coup, est-ce que ce serait pas justement parce qu'il y a beaucoup de films, donc du coup, que je trouve plus accessible que d'acheter plein de comics et tout pour suivre les histoires, que justement les comics sont pas un peu en perdition?
Ben oui, je pense aussi. Je pense que le trop de films crée en fait un manque d'intérêt pour les comics, parce qu'il y a plus, les gens pensent qu'il n'y a plus besoin de lire pour connaître ses héros. Quand on voit qu'il y a 3 films Iron Man, bah, c'est bon, on connaît bien Iron Man après ça. Alors on peut plus les connaître en lisant les comics, mais 4 films Avengers, bah voilà, c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je ne sais pas combien de films Batman également. Il y en a plein qui connaissent quand même bien Batman grâce à la série animée, grâce à Gotham, la série Gotham actuelle, grâce aux films. Donc voilà, il n'y a pas besoin de lire les comics, quoi. Enfin, les gens pensent ça, alors qu'en fait, c'est autre chose. Les comics, c'est vraiment un autre univers qui peut apporter un complément.
Mes chers camarades, que cette conversation me plaît, que cette conversation, je l'espère, vous plaît. Et pourtant, elle touche à sa fin, ma chère Madame Le Neutre Bourris. Vous voulez bien nous rappeler un petit peu les dates de cet événement, l'heure de cet événement? Est-ce que vous avez d'autres projets ensuite? Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, donc oui, c'est samedi 30 mars à la bibliothèque du Châtelet, de 10h à midi et de 13h30 à 17h, avec une conférence sur la place des femmes dans l'univers de Batman à 14h30. Vous pourrez aussi voir l'exposition Batman qui a lieu actuellement à la bibliothèque du Châtelet jusqu'au 26 avril également. Très intéressante exposition. Et donc dans le futur, on verra, on fêtera sans doute d'autres héros, pas forcément des super-héros, mais on a déjà fait Harry Potter également, il y a peu, à la bibliothèque Parment. Donc pourquoi pas d'autres personnages qui plaisent au public ou qui nous plaisent à nous, aux bibliothécaires, et qu'on a envie de faire connaître au public davantage.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous parler de cet événement bien sympathique qui se passe à côté de chez nous, sur le plateau. Et bien sûr, eh bien, chers amis, on ne manquera pas de vous reparler des futurs événements qui vont se passer à la bibliothèque du Châtelet. Espérons qu'il va y en avoir plein, je n'en doute pas. Malheureusement, il est déjà temps de se quitter. Alors, je vous dis à bientôt sur le mix des cultures. Si vous ne savez pas quoi faire après, et je vous conseille, quoi qu'il arrive, de le faire écouter de 18h à 19h sur le 99.1 Radio HDR Campus Mag, l'émission de Loïc qui vous parle de l'actu étudiante un petit peu. Et si je ne m'abuse, chez nos amis de Principe Actif, à 20h, il y aura Hit the Road Together, que vous connaissez bien, cette émission super éclectique. Et moi, je vous dis à bientôt, chers auditeurs et auditrices. Salut.